CJSO 101.7. La Tribune. Une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, la parole est à vous. Place à la Tribune. Voici.
C'était leur journée nationale hier. À l'émission ce midi, les Patriotes de 1837-38, que doit-on retenir de leur lutte, connaître de leur legs et savoir sur la façon de le perpétuer, mes invités? L'enseignant en histoire et président de la Maison nationale des Patriotes, Yann McClure, le patriote, la patriote de l'année de la SSJB Montréal, Louise Arel, Claude Rochon, arrière-petit-fils de patriote, et Denis Trudel, ex-député du Bloc québécois, pour les rôles qu'il a joués à Ottawa, et dans 15 février 1839, véritable chef-d'œuvre de son ami Pierre Falardeau. Je leur parle après la pause.
Qu'est-ce qui est plus excitant que le retour du beau temps? Le retour des subventions pour les véhicules électriques. Oui, oui, vous avez bien entendu. Avec le rabais gouvernemental, roulez en Equinox EV LTTA 2025 pour 99 $ par semaine pendant 48 mois. Versement initial de 3 500 $. Valeur au détail de 44 919 $. Et si vous êtes membre de Costco, vous obtenez 1 200 $ en prime. Venez essayer l'Equinox EV, le véhicule électrique le plus vendu au Québec en 2024. Et faites le saut vers l'électrique avec Chevrolet. Détails sur Chevrolet.ca.
Du lundi au vendredi, sur le rythme le matin, c'est votre accompagnement rêvé au boulot ou à la maison. De 9h à midi, CJSO vous propose 180 minutes sans pub, 3 heures avec là-dedans juste vos chansons préférées. Et dès 13h jusqu'à 15h30, moi, Alex Trudel, je partage avec vous des nouvelles de vos artistes préférés, ma bonne humeur, et on parle de nous à CJSO et CJSO.ca.
CJSO 101.7.
Chez Meubles André Beaulieu, mai est le mois de Maytag. Du 8 mai au 4 juin, profitez de rabais allant jusqu'à 400 $ sur les électroménagers de cuisine Maytag et obtenez 100 $ de rabais à l'achat d'un duo de lessive admissible. Des électroménagers fiables, un service attentionné et des économies qui font du bien. Tout ça avec notre équipe qui est là pour rendre votre choix simple et agréable. Passez-nous voir chez Meubles André Beaulieu. On vous attend.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
Le Québec vibrait hier pour la 23e fois au rythme de la Journée nationale des Patriotes. Un devoir de mémoire que Bernard Landry estimait que les Québécois leur devaient bien. Que doit-on retenir des luttes de ces valeureux ancêtres, connaître de leur legs et savoir sur la façon de le perpétuer? Le premier auquel je pose ces questions et d'autres questions est enseignant en histoire au cégep de Sorel-Tracy. Il est, par ailleurs, ce qui démontre son intérêt pour cet épisode de notre histoire, président du CA de la Maison nationale des Patriotes à Saint-Denis-sur-Richelieu. Bonjour, Yann McClure.
Bonjour, ça va bien, Sylvain?
Ça va bien. Avant de parler de ce passionnant épisode de la rébellion des Patriotes 1837-38, j'aimerais savoir qu'on remonte à la conquête de la Nouvelle-France par la Grande-Bretagne en 1760. Ceci expliquant cela, le gouvernement de la Province of Quebec, qui incluait alors le Haut et le Bas-Canada, ainsi que différentes parties du Manitoba, États-Unis, Michigan, New York, Ohio, Pennsylvanie, est assuré par un gouverneur général nommé par Londres qui détient tout, mais vraiment tous les pouvoirs, là.
Tout à fait. Vaste programme si tu veux qu'on commence à la conquête. Effectivement, là, en 1759-1760, donc on se souviendra des plans d'Abraham en 1759, et je dois avertir les gens que c'est pas la fin des haricots, hein. Il y a quand même des combats en 1760 aussi, notamment à la hauteur de Sainte-Foy, où les Français remportent des victoires, puis ensuite, c'est nos alliés autochtones qui prennent le relais avec la révolte de Pontiac. Cela étant dit, c'est véritablement un gouvernement anglais qui s'installe. Mais tout ce temps-là, d'une certaine façon, se structure cette colonie-là sous la férule vraiment des Anglais.
L'Empire britannique qui encourage, là, je pense que c'est important de le dire, une arrivée massive de loyaux à la couronne britannique qu'on appellera les loyalistes. Et seuls ceux qui prêtent le serment du test
peuvent occuper un poste dans l'administration civile.
Élément de frustration, très certainement, qui motive les populations ou la population du Bas-Canada, éventuellement, à se soulever, évidemment. Là, oui. Et d'abord, je dois souligner l'aspect démocratique. Hein. On a essayé de travailler dans le contexte parlementaire anglais, bien que totalement imparfait, puisque on n'avait pas les leviers pour pouvoir voter. On n'avait pas le gouvernement responsable. Cela étant dit, les loyaux s'installent effectivement. Et suite à la guerre d'indépendance des États-Unis, ils arrivent massivement. Ils vont s'installer, par exemple, du côté massivement de l'Ontario, qui va devenir le Haut-Canada. Puis, vous allez avoir des loyalistes qui s'installent aussi dans les cantons de l'Est. Et effectivement, cette arrivée-là massive de loyaux va un peu débalancer, si vous voulez, là, le rayon d'action que pourrait avoir de la députation là, francophone éventuellement.
Il y a 1774, là, l'acte de Québec qui donne un peu d'espoir parce qu'il permet aux habitants de pratiquer la religion catholique, de faire partie de l'administration sans avoir à prêter le serment du test. Sauf que ça met aucun frein ça à l'absolutisme du gouverneur britannique. Hein?
Oh là, du tout, ça met pas de frein. D'une certaine façon, l'acte de Québec était lié à les craintes qu'avait le gouverneur que les Canadiens français, alors les Québécois aujourd'hui, passent du côté états-unien et se joignent à la rébellion de l'indépendance du côté des États-Unis. Oui, on trouvait ça peut-être intéressant, l'acte de Québec, et on s'est pas joint à un mouvement de rébellion états-unienne, mais cela étant dit, la donne changera pas vraiment par la suite.
L'Assemblée législative du Bas-Canada, elle obtient le pouvoir de légiférer, mais le gouverneur colonial britannique demeure le chef de l'exécutif et il conserve également les cordons de la bourse. Alors, il peut rendre totalement inopérantes les lois votées par l'Assemblée majoritairement canadienne.
Le seul petit pouvoir qu'avait la Chambre de l'Assemblée, c'est sur les subsides. Les subsides, c'est de l'argent des taxes, par exemple, sur le tabac là, ou sur l'alcool. Ces subsides-là, donc, la Chambre d'Assemblée avait un droit de veto sur l'utilisation de la cagnotte accumulée par ces petites taxes-là. Alors, le souci là-dedans, c'est que le gouverneur était courroucé, je vais le dire comme ça, de pas pouvoir avoir accès à dépenser ces sommes-là qui étaient accumulées. Les résolutions Russell, qu'on parlera peut-être tantôt
ensemble,
vont invalider ce droit de veto-là qu'avait la Chambre d'Assemblée.
Justement, avançons dans l'histoire, dans le contexte qu'on vient de nommer, là, de brosser, la politique prend rapidement une tournure musclée. Le Parti canadien, formé par les habitants, s'oppose au Parti anglais, favorisé par les gouverneurs successifs. Les élections se déroulent dans un climat, on dit, d'intimidation. Le gouverneur n'hésite pas à dissoudre l'Assemblée lorsqu'elle va à l'encontre de ses intérêts. Le mouvement patriote réformiste, il prendra forme dans les années suivantes, hein, en engendrant notamment la transformation du Parti canadien en Parti patriote.
Tout à fait. Puis j'aimerais souligner à ce point-ci que c'est pas quelque chose qui est inusité, Sylvain. C'est-à-dire que c'est un vent de changement international là, dans lequel les patriotes s'inscrivent. On voit, par exemple, en Europe, en Amérique latine, des peuples qui se soulèvent pour réclamer plus de droits. Là, on n'a qu'à penser à Toussaint Louverture, par exemple, du côté d'Haïti, et Simon Bolivar en Amérique du Sud, tu sais, même les révolutions françaises puis la révolution américaine sert de moteur vers l'obtention de plus de droits, de plus de démocratie. Puis c'est un mouvement mondial d'affirmation des peuples, donc c'était pas isolé. Tu sais, on partageait des idéaux à ce moment-là assez universels de justice puis de souveraineté populaire.
D'accord, c'est bien de dire ça. Afin d'exposer clairement les demandes des patriotes, Papineau et le Parti patriote font adopter les 92 résolutions. Ça, c'est un document capital hein, dans l'histoire du Québec.
Tout à fait. Envoyé à Londres en 1834, là, je vais vous avouer que ça va rester sur le bureau, sur un bureau d'un fonctionnaire probablement un certain temps du côté de Londres. Mais il en reste pas moins que éventuellement ces 92 résolutions là, donc on voulait obtenir évidemment dans le contexte le gouvernement, avoir un gouvernement responsable en fait, ça va être refusé par Londres.
C'est ça qui a fait sauter la marmite. Mais je veux revenir 92 résolutions. La campagne électorale de 1834 se joue essentiellement sur l'appui et ou le rejet des 92 résolutions. Résultat, le Parti patriote remporte une victoire écrasante avec 78 députés élus contre 10. Fait que là, j'imagine la situation se calme, on se dit, bon, on va envoyer ça, comme tu l'as dit, on va envoyer ça à Londres, on va entendre la réponse. On devait être un peu confiant, là.
On était confiant, d'autant plus que c'était des demandes tout à fait légitimes, même pour l'époque, là. Puis je tiendrais peut-être à souligner quelque chose, Sylvain, ici. Tantôt, tu as parlé de violence qui était liée au processus d'élection. Ben, à Sorel, on a un épisode, justement, en 1834, où il va y avoir un mort. Est-ce que... Puis on a un monument, justement, qui le souligne, le monument dédié à Louis Marcoux, un marchand de la région, qui, lui, de son côté, était du côté des réformistes, était aussi un ami personnel de Wilfred Nelson. Puis, à cette époque, Sorel ne s'appelait pas Sorel, hein? On l'appelait plutôt, est-ce que tu te souviens?
Ah, William Henry.
Voilà. Donc, on avait 130 personnes qui étaient habilitées essentiellement à voter. Et puis, ce qui va se produire, c'est qu'un certain John Jones, qui luttait contre les réformistes, le Parti patriote, va vouloir faire ériger sur un certain Dumas une cheminée. Et puis ça, c'est la veille des élections. Là. Ça va créer une espèce de brouhaha.
Parce que pour voter, il fallait avoir une cheminée.
Peu et lieu, effectivement. Et là, Louis Marcoux se présente sur les lieux. Et puis, il y a un échauffouré et des parents de John Jones vont faire feu sur Louis Marcoux avec un pistolet. Et puis, ben, il va décéder. Puis ça va créer un véritable scandale. Les périodes d'élections, c'est tout le temps sous tension. Il y a de la violence, ça brasse. Fallait être fait fort pour se présenter aux urnes à cette époque-là.
Oui. Alors, regarde, on arrive là à la rébellion de 1837-38. Ouais. C'est un long détour, mais je pense que c'est important de le faire. Alors, 1837-38, la rébellion, c'est l'aboutissement d'un conflit politique de plus en plus intense là entre les autorités coloniales britanniques et la majorité de la population du Bas-Canada. Si on parle de 1837-38, c'est que cette rébellion, elle s'est déroulée en deux phases, hein?
Oui, ben en fait, la première phase, à la suite des résolutions Russell, on a eu des assemblées populaires qui vont se produire un peu partout, notamment dans la vallée du Richelieu. Et si tu veux, ces assemblées populaires-là vont activer d'une certaine façon les passions populaires. Hein. On fait des discours, on fait des harangues et la tension monte. Et évidemment, Papineau étant un modéré, a toujours essayé de calmer le jeu un petit peu. Mais à un certain moment donné, des gens comme Wilfred Nelson vont vouloir passer à l'action, à une étape supérieure. Donc une accélération, si tu veux, vraiment des événements après ces assemblées-là. Si bien qu'on va émettre des mandats d'arrestation contre les leaders les plus radicaux, justement, des patriotes. Et même Papineau va, on va vouloir avoir sa tête.
Va sacrer son camp pour pas être emprisonné. Les patriotes insurgés font face aux troupes et aux milices loyalistes à plusieurs occasions, les plus connus étant à Saint-Denis, et à Saint-Charles et à Saint-Eustache en 1837. À Saint-Denis, ça, là, il faut s'arrêter là, parce que contre toute attente, les patriotes repoussent leurs assaillants.
C'est la seule victoire véritablement, mettons, militaire patriote à ce niveau-là, Sylvain. Alors, le contexte étant que des troupes partant de Sorel, en plein mois de novembre, se déplace du côté de Saint-Denis. On a affaire quand même à l'armée la plus puissante du monde à cette époque-là, donc l'armée régulière britannique. Et puis, les patriotes vont s'organiser. Ils vont tenter, avec des fusils, des fourches, avec les moyens du bord, on va le dire comme ça, ils vont tenter de repousser l'ennemi. Ils vont réussir à le faire, ayant accès à certaines armes de chasse, notamment, qui, en rusant, je dirais, aussi dans le théâtre des opérations, si bien que les armées vont devoir replier chemin. Cela étant dit, les suites sont beaucoup plus dramatiques. L'armée britannique va revenir, va notamment incendier les villages là, dans la vallée du Richelieu, qui va provoquer toute une commotion, on peut se l'imaginer, dans la population. Là. Ouais. Donc, on est au mois de novembre, décembre.
Oui, alors la répression des autorités coloniales est dure. Tu en parlais un peu plus tôt. La loi martiale est déclarée. De nombreux rebelles, dont Papineau, doivent fuir aux États-Unis pour éviter la peine de mort. Des centaines sont arrêtées. Plusieurs sont déportés en Australie. D'autres pendus à la prison du Pied-du-Courant à Montréal ou tués lors des combats. Cette soif de liberté, là, on a voulu la mater pour de bon.
Tout à fait. Je veux dire, c'était dans l'ordre des choses de cette époque-là, je dirais. On a affaire à un gouvernement qui était rude. Il y avait le vieux Colborne qu'on appelait. On l'appelait aussi le vieux Brulot. Donc, il y avait un côté très, très, très matons une rébellion. Peut-être qu'on avait vraiment peur que les choses s'embrasent beaucoup plus. Pour rappeler aussi que dans le Haut-Canada, il y avait également des rébellions. Donc, on a voulu vraiment là, écraser, tuer dans l'œuf là, ce mouvement-là naissant pour éviter peut-être que ça fasse un petit peu comme aux États-Unis. Là. Donc, la répression, elle est dure. On a brûlé des villages. On a incendié une église, justement, à la bataille de Saint-Eustache. Là, il n'y a pas eu de quartier, là. Donc, on s'est installé, on a canonné l'église, et puis on a mis le feu au presbytère de cette église-là, flambant les gens qui étaient à l'intérieur, qui étaient retranchés pour essayer d'affronter les troupes régulières. Donc, je dirais que c'était dramatique.
Le rapport de Lord Durham, est-ce ouais. qu'il n'est pas directement lié à l'échec des rébellions, ce rapport-là visant à faire disparaître la nationalité canadienne-française par l'assimilation?
Ben, disons que pour l'esprit de l'époque, on dirait, on a un Durham qui va souhaiter effectivement de, il déclare Durham à un certain moment donné là, qu'est-ce que c'est, je vois ici une espèce de conflit de race là. Donc il se dit bon, la meilleure des choses ce serait que ces Canadiens français là puissent passer parler anglais, tu sais, ou adopter les coutumes, les mœurs et les coutumes des Britanniques. Donc l'idée, oui, l'assimilation. De là l'idée éventuellement que va proposer Lord Durham de procéder à ce qu'on va appeler l'acte d'union. Donc, unir le haut et le bas Canada dans l'esprit de l'époque.
Il faut accélérer, Yann, même si j'ai pas envie d'accélérer. Que nous lèguent que nous lèguent les patriotes?
Je dirais que même si c'est un échec militaire, Sylvain, là, même si on a eu l'acte d'union là, qui tentait d'assimiler là, les Canadiens français, l'esprit puis les idéaux des patriotes, a resté tout à fait vivant, leur sacrifice, là. Ont valu d'une certaine façon la peine parce que des années plus tard, donc en 1848, là, on va accorder le gouvernement responsable et c'est grâce à la lutte des patriotes, là, ça s'est produit. T'sais. C'est une étape cruciale dans l'avènement de la démocratie pour vrai. Puis c'est ce que je parle à mes étudiants. Alors, faut le voir comme ça. C'est la naissance de notre démocratie, là. Alors, c'est important qu'on la souligne. C'est important d'avoir une journée qui est dédiée pour ça, là. Faut se souvenir de leur courage, de la détermination, puis de la vision de ces gens-là de l'époque qui se sont battus pour des principes de justice et de liberté. Donc, notre démocratie, quoi, c'est ça. Alors, c'est important.
Tout ce qu'on a raconté, là, est-ce que ça explique pas un peu pourquoi, aujourd'hui, des députés québécois ont pas très envie de porter serment au roi Charles?
Ben, effectivement, je veux dire, dans une perspective très, très québécoise, la monarchie a fait figure d'oppression à plusieurs égards. C'est un peu différent. Tu sais, le Canada anglais, il va avoir des... ils ont, comment je dirais ça, s'identifient peut-être à des symboles monarchiques naturellement, tandis que nous... ben cette monarchie là ben je dirais qu'on la porte pas nécessairement dans notre cœur et dans notre ADN socioculturel, je dirais.
Bien qu'il y ait des milliers de Québécois qui aient été ravis de recevoir la médaille de couronnement du roi Charles, t'es bien content de ça?
Tu m'entraînes même... dans mais... des moments dans...
non dans mais des c'est moments où, c'est là, difficile à expliquer la...
c'est difficile à expliquer je le conçois. Si on parle de l'histoire de bonne façon, même sans billets, on expose les faits historiques, je pense qu'au terme d'avoir différents cours d'histoire dans le cursus scolaire des jeunes, non, d'après moi, je ne sais pas si on va voir autant d'adhésion face à une monarchie britannique ou aux symboles associés à.
La Maison nationale des patriotes que tu présides, je vais finir comme ça, Yann, la Maison nationale des patriotes que tu présides nous propose une immersion dans notre histoire nationale.
En fait, c'est un lieu absolument important que je pense que tout le monde devrait visiter à un certain moment, et même tous les écoliers devraient passer par la Maison nationale des patriotes. C'est vraiment l'endroit où on prend la mesure de ce qui nous a amené, cette démocratie-là qu'on parlait tout à l'heure, là. La même chose avec la prison au pied du courant, qui malheureusement en ce moment a subi des inondations quand une conduite d'eau a éclaté à Montréal. On a réussi à sauver des artefacts, c'est bien, mais tout est à reconstruire. Ce sont des lieux de commémoration gigantesques d'une certaine façon. D'ailleurs, j'invite la population à visiter notre site et même à nous donner un petit coup de main. Et à devenir membre de la Maison des Patriotes, ça nous donne l'opportunité de mettre en valeur les différents sites historiques qu'on a. Puis, globalement, chaque adhésion à la Maison des Patriotes nous donne un coup de main aussi pour développer des programmes pédagogiques, entre autres choses.
Donc, merci beaucoup, Yann McClure. Ce fut passionnant. Merci, Yann.
Merci, Sylvain.
Après la pause, on parle à la patriote de l'année, Mme Louise Harel.
La bonne nouvelle économique. Une présentation de la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et du magazine Contact Affaires.
Le gala du mérite économique sacre ses lauréats chez Gaïa Espace Canin. Remporte le prix coup de cœur du public. Paul Caplette, celui de grand bâtisseur de l'année. Alors que le groupe Jib rafle le titre d'intervenant économique de l'année. Dans les autres catégories, les lauréats sont entreprise agricole, ferme Sainte-Victoire, entreprise manufacturière, AM Installation, entreprise de service individu, clinique Phare Santé, entreprise de service entreprise Colosse, entreprise de service industriel, équipe C, entreprise de service organisme, fondation football Sorel-Tracy, commerce de détail et restauration, voiturette M, Bouchard et Fille, travailleurs autonomes Saudance, tourisme et culture, événements Sorel-Geek, Tourisme et culture, organisme Groupe Jib et jeunes entrepreneurs, la mutinerie.
La bonne nouvelle économique vous a été présentée par la Caisse des Jardins Pierre de Sorel et le magazine Contact Affaires.
Contact Affaires. Le magazine Contact Affaires est présentement distribué par la Poste à toutes les entreprises de la région. À la une, début de la construction de l'usine TDF Canada, le plus grand investissement industriel dans l'histoire de Sorel-Tracy. Vous pouvez consulter le magazine sur cournoyerpublications.cc. Contact Affaires, des reportages branchés sur notre communauté économique. Édité depuis 26 ans par Cournoyer Publications.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7. Avec Sylvain Rochon. De retour à la Tribune.
La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal lui a décerné le titre de Patriote de l'année. Louise Harel est au bout du fil. Bonjour, Madame Harel.
Oui, bonjour, Sylvain.
Bravo pour cet honneur. Merci pour celui que vous me faites d'être de l'émission ce midi. Comment recevez-vous ce titre-là de Patriote de l'année? Comment le recevez-vous comme femme, ai-je surtout envie de savoir? Les Patriotes n'ayant pas eu pour réputation de faire grand place aux femmes, c'était, là, j'emploie l'expression anglaise consacrée, un boys club.
Mais écoutez, ils sont pas parfaits. Hein? Je considère que c'est leur seul défaut. Parce que, effectivement, quand on relit leurs 92 résolutions, c'est inspirant à tous égards. Parce que, déjà à cette époque, il faut se remettre dans un contexte des années 1830, c'était donc un contexte de ce qu'on appelle décolonisation. Hein, ce qu'ils recherchaient, c'était un gouvernement responsable, élu par le peuple et pour le peuple, sans taxation, imposée par des gens qui n'étaient pas élus, hein, no taxation without representation, hein, c'était vraiment la formule de l'époque. Et à tous égards, ils étaient modernes, progressistes, émancipateurs, à l'égard, de l'inclusion. C'était un mouvement qui était d'origine, si vous voulez, plus canadienne-française, mais qui incluait l'ensemble des résidents, quelle que soit leur nationalité. C'était d'ailleurs expressément confirmé qu'ils souhaitaient que les Juifs sur le territoire aient droit de vote, qu'ils n'avaient pas dans aucun pays qui était dominé par l'Angleterre.
Oui, ils étaient moins favorables, je reviens aux femmes, là. Ils étaient moins favorables, par exemple, au droit de vote des femmes.
Exactement. Alors, quand je dis ça, je comprends aussi que c'était de leur temps.
Oui, c'est une autre époque.
Mais c'était une autre époque. Mais entre vous et moi, Sylvain. C'était une époque, une autre époque pour tout ou presque. Mais ils ont, eux, transcendé leur époque dans bien des domaines, notamment dans cette recherche de démocratie, dans cette offensive contre la corruption, parce que déjà à l'époque, dans les 92 résolutions, ils luttaient très vivement contre la corruption, vraiment à faveur des droits linguistiques reconnus pour le français. Donc, il y avait bien des domaines où ils transcendaient leur époque, mais pas celle concernant l'égalité des hommes et des femmes.
Bon, voilà. Étant question de la place des femmes, vous avez su briser, vous, Louise Arel, le plafond de verre en devenant, en 2002, la première femme à présider l'Assemblée nationale.
Absolument. Et j'en suis fière, comme je le suis aussi de cette attribution-là du titre de
patriote de l'année.
En fait, c'est la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal là, qui me l'a décerné. Mais je dois vous dire, Sylvain, que je partage ce prix aussi avec les membres du comité sur la langue française de la ville de Montréal. Nous étions 9 personnes, donc que je présidais, là, mais bénévolement à nous à travailler pendant 2 ans et demi et nous voyons fréquemment pour vraiment recevoir des dirigeants de différents services de la ville là, pour travailler avec eux sur ce qu'ils pourraient faire de mieux.
Oui. Ben, la SJB vous a décerné le titre de patriote de l'année pour votre engagement en faveur du français à Montréal. Est-ce surtout pour la langue et la culture qui nous distingue en Amérique que vous portez ce projet de pays québécois?
Oui, effectivement, mais ça va évidemment, ça va de soi d'une certaine façon, parce que il y a cette question linguistique. Faut se rappeler à quel point ça a été des luttes incessantes. Hein. On prend pour acquis que ce serait plus difficile maintenant, que les défis sont plus grands, que c'est presque insurmontable. Mais pensons à la proclamation royale de 1763 qui éradiquait complètement le français. Bon, après, ça a été réhabilité avec l'acte de Québec en 1774 parce qu'ils craignaient qu'on rejoigne les Américains dans leur volonté d'indépendance. Mais et les patriotes, dans justement leur 92 résolution, réclament des garanties pour le français. Mais après, avec l'heure du Durham puis l'acte d'union 1840, il n'y avait qu'une seule langue officielle, c'était l'anglais. Alors, vous voyez des retours d'histoire incessants. Avec la Confédération, ben, le Québec avait juridiquement sur papier la langue française. Mais il a fallu 1975 avec Robert Bourassa pour que ça devienne langue officielle. Alors, vous voyez, c'était notre histoire est vraiment jonchée de luttes comme celles-là qui ont forgé notre identité, notre culture. Et c'est pour ça que c'est important. Mais c'est important à transmettre.
Vous avez consacré beaucoup d'énergie à lutter pour l'indépendance du Québec. Est-ce qu'il vous apparaît, après 2 échecs référendaires, 80 et le très relatif échec de 95, que se donner un pays, ce serait aller au bout du combat des patriotes?
Les patriotes étaient émancipateurs. Pour l'époque, c'était déjà extraordinaire de vouloir être autonome par rapport à la couronne britannique. Mais ils y croyaient. Ils ont même été à Londres pour plaider leur revendication. Et donc, c'est un échec parce que finalement, ce qu'il faut convenir, c'est les Québécois, n'est-ce pas? Mais les Acadiens également ont souffert énormément. Ça vaut pour les Autochtones aussi. Et cette domination britannique, on l'avait presque oublié, là, jusqu'à ce qu'on nous rappelle que la semaine prochaine, il va y avoir un roi.
Ben oui!
Qui va venir prendre des engagements pour un gouvernement légitimement élu et démocratiquement élu.
Est-ce que c'est une gaffe de M. Carney, ça?
Une grave erreur. À mon point de vue, c'est une grave erreur. C'est une déconnexion. C'est comme une méconnaissance de ce qui, euh, qui, ce qui a fait souffrir finalement des peuples pendant très longtemps. Pensez entre autres aux Acadiens, entre autres, pensez à la loi sur les Indiens du gouvernement fédéral au moment où il était dans le Dominion anglais. C'est certain, et pensons aux Québécois, et évidemment, surtout avec la Journée des Patriotes qui nous a rappelé à quel point il y a des Québécois qui ont donné leur vie pour la démocratie, qui ont donné leur vie pour leur idéal. Alors, oui, c'est une erreur.
Oui, et vous en avez consacré, je reviens à l'indépendance, une bonne partie de votre vie à ce combat pour la souveraineté du Québec. Ma dernière question, ce sera celle-ci. Est-ce que vous êtes confiante de le voir naître, ce pays québécois?
Ben, oui, parce qu'il y a une nouvelle génération. Alors, tu sais, longtemps, voyez, moi maintenant, j'ai presque 80, et je pourrais vous rappeler des dizaines de fois où les opposants, les adversaires ont prétendu à la mort de la souveraineté. Je ne sais pas combien de fois ils ont fait des manchettes dans les médias avec Stéphanie, c'est mort. Une idée, ça ne meurt pas. Un projet ne meurt pas. Et moi, je suis très contente qu'il y ait cette nouvelle génération maintenant qui a repris le flambeau. Et ce sera comme ça jusqu'à ce qu'on va y arriver.
Je vous remercie beaucoup, Louise Arel, de m'avoir accordé cet entretien. Merci beaucoup.
À moi, ça fait plaisir. Au revoir.
Merci. Claude Rochon est arrière, petit-fils de patriote, un patriote qu'il est malheureusement trop jeune, beaucoup trop jeune pour avoir connu.
Beaucoup, en effet. J'ai quoi, moi, 95 ans, et ce qui, outre mon jeune âge, n'aide pas la cause de votre émission, Sylvain, c'est que le patriote en question n'est pas mort bien vieux, il est mort à 55 ans.
Ce qui fait, je suppose que ton père ne l'a pas davantage connu, ton père, qui était son petit-fils.
Mon père, ton grand-père, si je peux révéler ce secret-là à nos auditeurs, est né 20 ans après la mort de son grand-père à lui.
Mais, sans doute, Hector en a-t-il entendu parler par son père?
Ben, je me demande à quel point, sais-tu, parce que mon grand-père n'avait que 7 ans quand son père est mort. Penses-tu que les auditeurs nous suivent ou sont tous perdus?
Oui, toi, c'est vrai que tu es jeune et vif d'esprit. La question se pose. Je continue les miennes. Je me rends compte qu'on n'a pas encore nommé ce fameux patriote. Il s'appelait Toussaint Rochon.
Exact. T'as de la mémoire. Né à Terrebonne en 1810, puis décédé en 1865.
Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, notre ami Toussaint? Il pratiquait quoi comme métier, au juste?
Il fabriquait des chariots, des charrettes, des voitures. Ben, on peut dire que c'était le garagiste du coin.
Le coin étant Saint-Clément-de-Beauharnois.
Voilà.
Arrivons au vif du sujet. Son engagement auprès des patriotes.
D'accord. On est en 1838. Toussaint a 28 ans. Il prête le serment des frères chasseurs. Ça, c'était une organisation au sommet de laquelle se trouve Robert Nelson, le frère de Wilfred Nelson. Son objectif, c'est de structurer les forces rebelles pour mener à bien leur tentative d'invasion du Bas-Canada. On estime qu'elle a compté entre 40 000 les 200 000 personnes.
Parmi lesquelles Toussaint, mais pas que Toussaint, ses deux frères aussi.
Tout à fait. Toussaint, donc, 28 ans. Jérémy, 36 ans. Et Édouard Pascal, 38 ans.
Ça ne s'est pas passé comme les patriotes le souhaitaient. Plusieurs ouvrages font état de cette période de trouble-là. Un ouvrage, d'ailleurs, publié par ton frère Paul.
Oui, et c'est lui, Paul, qui m'a fait découvrir Toussaint. Il a signé un récit, je pense que tu l'as lu, en plusieurs tomes sur l'histoire des patriotes.
Toussaint fut trouvé coupable de haute trahison envers sa majesté, incendié, condamné à mort, et puis finalement exilé en Australie.
Comme 57 autres. Qu'en septembre 1839, on entasse dans la cale d'un navire de guerre britannique pour les expédier en Australie, où se trouve alors le bagne le plus sordide là, de tout l'Empire britannique.
Tu as une lettre que Toussaint, apprenant sa déportation, écrit à son père.
Oui, oui, oui. Mon cher père, c'est la lettre en question, je vais vous laisser, ainsi que ma bonne et tendre mère, pour un exil dont je ne connais pas le terme. Le sort, mon cher père, je lis toujours la lettre, le sort, mon cher père, est dur pour vous et pour moi. Je confesse que je ne puis avoir à supporter de plus grand malheur. Quelle torture pour moi d'avoir à me séparer d'une femme et de deux jeunes enfants. Pensez toujours à moi, ne m'oubliez pas dans vos prières. Soyez sûr que si je puis revenir, je le ferai en toute hâte pour adoucir vos maux et sécher vos pleurs, ainsi que celles de mon épouse.
Fermez les guillemets. Il n'allait malheureusement pas, comme ses 57 compagnons d'infortune, revenir de sitôt.
Ah, oh mon Dieu, 6 mois de navigation, 4 ans en Australie, après lesquels la brave reine Victoria leur accorde finalement son pardon.
Toussaint revient après toutes ces années-là auprès de sa femme.
Et ni elle, ni ses concitoyens ne l'ont oublié. Il est élu, voyez-vous, en 1845, maire de Beauharnois.
Merci Claude Rochon pour ce récit. Un mot à ajouter peut-être?
3, je dirais. Vive la liberté.
Merci. Après la pause, pour fermer l'émission, celui qui était jusqu'à récemment encore député de Longueuil-Saint-Hubert à la Chambre des communes, le comédien Denis Trudel, il est et a joué un patriote dans ce qui est sûrement l'un des plus grands films de son ami Pierre Falardeau, 15 février 1839. À tout de suite!
En mai, chez Meubles André Beaulieu, offrez-vous le repos que vous méritez avec 20% de réduction sur les matelas Mirabel. Conçu pour un sommeil réparateur, il vous offre la qualité et le soutien dont vous avez besoin. Et pour encore plus de confort, venez découvrir nos lits électriques en démonstration en magasin. Notre équipe est là pour vous conseiller et rendre votre choix simple et agréable. Passez-nous voir. On vous attend.
Auditeur de CJSO.
Votre mission est commencée. Votre objectif, remporter 101,07 en argent. C'est le printemps payant de CJSO. Vos instructions. Du lundi au vendredi, écoutez l'émission Yatsé Matin. Vers 8h05, Alex Trudel nommera au hasard une adresse de la région de Sorel-Tracy. Si vous y habitez, vous aurez 24 heures top chrono pour vous présenter à la station. Avec une preuve de résidence, réclamez votre gain et dire mission accomplie.
Une présentation de CJSO 101,7 et de ses partenaires.
L'équipe Charbonneau-Chartrand, courtier immobilier Sutton et piscine espace Jannick Terrien et fils.
Express Pub.
Action Chômage Pierre de Sorel est présent pour vous renseigner sur les programmes de l'assurance-emploi en assurant un travail d'information et de défense des droits des chômeurs et chômeuses, soit par téléphone ou par des rendez-vous en personne. Informez-vous en nous contactant au 450-556-1224.
C'est la fin des lunettes chères à l'entrepôt de la lunette. Obtenez une monture gratuite parmi une sélection de montures à l'achat de verres avec traitement anti-reflet. Oui, oui, une monture gratuite. Rendez-vous dans une de nos 20 lunetteries. Des conditions s'appliquent. Alain Desjardins, optométriste, et Stéphane Beaulieu, opticien.
La Tribune, une présentation de Meubles André Beaudieu. À CJSO 101.7, avec Sylvain Rochon. De retour à La Tribune.
Il était jusqu'à récemment encore député du Bloc québécois dans Longueuil-Saint-Hubert. Nous le recevons pour ce rôle qu'il a joué à Ottawa et pour celui d'un patriote dans 15 février 1839 de son ami Pierre Falardeau. Denis Trudel est au bout du fil. Bonjour, Denis Trudel.
Bonjour, M. Rochon. Comment allez-vous?
Je vais bien. Mais vous, comment allez-vous? Ça a été une défaite difficile à accepter, celle du 28 avril. Est-ce que vous la ruminez encore un peu ou pas du tout?
Ben, écoutez, ça fait quand même 3 semaines déjà. Faut dire que, bon, tu sais, pour être franc, comment je dirais ça, j'ai été préparé un peu à ça. Quand on a vu, là, quand M. Trump, en fait, a commencé à faire ses niaiseries au mois de février, à raconter n'importe quoi, on a senti comme le vent avait un peu changé. Là, M. Carney est arrivé comme un espèce de sauveur venu du ciel pour sauver les Canadiens du méchant M. Trump. Et les gens se sont un peu fait prendre, en fait, par M. Carney, le banquier de Toronto. Mais ça, c'était très présent. Fait que dès avant la campagne, on sentait un vent là de panique un peu. Alors, on savait que ce serait difficile. Fait que, tu sais, moi, je me préparais un petit peu. Là, je pensais, vers la fin, dans les 10 derniers jours, le vent a un peu tourné. On dirait que les menaces de M. Trump étaient moins présentes. Et là, les gens, soudainement, revenait tranquillement vers le Bloc québécois. Alors, je pensais que ce serait peut-être possible vers la fin, mais finalement, il nous en a manqué quelques centaines de voix.
Oui, ben c'est ça. Exact. Votre défaite n'a pas été cinglante. Il y a 23 400 personnes qui ont voté pour vous, 24 200 pour votre adversaire. Cet appui-là, ça pourrait, est-ce que ça pourrait vous donner envie d'un retour à Ottawa ou, je sais pas moi, nouveau défi tout neuf à Québec où flotte pas l'unifolié sur la tour du Parlement, mais le Fleur de Lysée, ça serait un plus beau spectacle à regarder pour vous, ça?
Ben, en fait, tu sais, c'est sûr que moi, tu sais, je fais de la politique pour que le Québec devienne indépendant, là, c'est essentiellement ça, tu sais. Tu sais, faut comprendre qu'au Québec, on parlera plus français, à mon avis, dans 50 ou 70 ans, à peu près, si on se donne pas tous les pouvoirs d'un État. Alors, on pourra pas protéger la langue et la culture en restant dans le Canada. C'est terminé. La bataille pour le français dans le reste du Canada, c'est terminé.
Vous savez... Mais attendez, là, allez pas, là, vous êtes en train d'éluder ma question en bon politicien, là. Un retour à Ottawa ou votre venue au Québec, c'est-tu possible,
ça? Rien, monsieur Rochon, j'ai l'air de rien. Moi, partout où on se bat pour le pays, je vais être là. T'sais, c'est certain que dans les prochaines années, il va y avoir des grandes batailles. Et on va retourner en élection fédérale, peut-être dans un an et demi, deux ans. Peut-être à Québec, bon, c'est sûr qu'on y va dans un an et demi. Puis là, le PQ en ce moment promet un référendum dans un premier mandat, donc d'ici la fin de la décennie. Moi, c'est le sens de mon engagement politique, c'est que le Québec devienne un pays. Que je sois député à Ottawa, je vais participer à cette bataille-là. Si je suis député à Québec, je vais y participer aussi. Pour le moment, je garde toutes mes options ouvertes.
Ben oui, vous avez même pas cité la troisième hypothèse. Si je suis simple citoyen, je vais y participer pareil.
C'est clair.
Vous avez dit député à Ottawa ou député à Québec?
Oui.
Le goût est là. On sent que le goût est là. Bon, je vous voyais en photo, Denis Trudel, sur Facebook, faire les boîtes à votre bureau de circonscription avec nombre d'affiches des Patriotes. Oui. C'est une lutte qui vous parle énormément. Vous écriviez sur le réseau social hier. Se rappeler, bien sûr, mais au final, si c'est pas pour poursuivre la lutte qu'ils ont commencé, à quoi ça sert? Sentez-vous le Québec là-dedans poursuivre la lutte qu'ils ont commencée?
Comment vous dites?
Est-ce que vous sentez que le Québec est là-dedans pour suivre la lutte que les Patriotes ont commencée?
Ben ça, tu sais, il y a une partie des Québécois qui sont toujours là-dedans. T'sais, là, il va falloir en convaincre de toute évidence une bonne partie aussi, mais c'était le cas aussi. Les gens se rappellent pas, mais au début de la campagne référendaire en 1995, l'option était autour de 38 à 40 tellement qu'il y avait des gens à l'intérieur même du PQ qui essayaient de convaincre M. Parizeau de pas aller au référendum parce qu'il était sûr, on était certain de perdre. Finalement, on a perdu par 50 000 votes, là, à 49,5, c'est vraiment hyper serré. Donc, une campagne référendaire, ça sert à quelque chose. Quand on va se mettre à parler sérieusement de ça, à mon avis, l'option va monter, c'est certain. On sent pas un appétit féroce en ce moment, mais les gens sont un petit peu ailleurs pour le moment, mais il s'agirait qu'on se remette à parler de ça. Puis moi, je trouve que le PQ est très affirmé aussi, puis au Bloc, on en parlait aussi d'indépendance. Moi, j'ai pas arrêté pendant les 5 ans de mon mandat de parler d'indépendance sur les réseaux sociaux, quand je rencontrais des gens. Quand tu leur en parles, quand tu expliques aux gens, les gens sont... on pourrait vouloir faire ce choix-là. Fait que dans les prochaines années, je pense qu'il va y avoir des grandes questions qu'on va avoir à se poser. À force de se faire berner par le gouvernement fédéral, puis de dépenser de l'argent, notamment pour le pétrole, de l'argent dont on pourrait se servir ailleurs. Le fédéral, il faut pas oublier qu'il investit année après année des centaines de millions de dollars pour appuyer la langue anglaise au Québec avec notre argent. Le fédéral va servir de l'argent des Québécois aussi pour attaquer la loi sur la laïcité, qui est quand même un truc sur lequel les Québécois sont plutôt d'accord, à peu près à 80%. Donc, ce qu'on est, ça dérange dans le Canada. Ce que le Québec est, ça dérange le Canada. Alors, à un moment donné, il va falloir faire des choix.
Et vos craintes, vous les disiez tantôt, là, puis vous les avez écrites sur Facebook, vos craintes sont à l'effet que la culture québécoise et la langue française disparaissent inéluctablement. Monsieur Roberge, vous y croyez pas, à son combat pour le français?
Ben écoutez, on peut pas, en restant une province, on n'a aucune chance de protéger le français. Bien sûr qu'on peut faire des affaires, puis il faut le faire, là, mais si on se donne pas tous les leviers d'un État, on réussira pas à... Parce qu'on a beaucoup d'ennemis. Puis là, les Américains, bon, il y a M. Trump et tout ça, mais avant M. Trump, la culture anglo-américaine, pas que je l'aime pas, je pense que les gens aiment le cinéma américain, aiment la musique américaine, sauf que pour toutes sortes de raisons, les GAFAM font en sorte que sur Spotify, sur Netflix, on n'arrive pas à faire en sorte que notre culture, nos séries, nos musiques, nos chansons, nos artistes soient vus et entendus. Donc, Ça, faire vivre la culture, c'est important. Donc, si on ne donne pas tous les pouvoirs d'un État, on ne réussira pas à faire face aux GAFAM comme tel. Puis à l'intérieur même du Canada, ben c'est compliqué. Le Canada est officiellement un pays bilingue, mais c'est terminé, ce combat-là. Là. Dans le reste du Canada, écoutez, M. Rochon, à Vancouver, le français est la huitième langue parlée, huitième en termes de nombre de personnes qui la parlent. À Calgary, c'est 11e. Puis dans la plus grande ville du Canada, Toronto, c'est la 17e langue parlée. Le français, qui est une des deux langues officielles. Donc, le Canada est incapable de dire à ces gens qu'il va être capable de protéger le français, ça arrivera pas.
Okay. Donc, je parlais en introduction, Denis Trudel, de votre rôle dans ce véritable chef-d'œuvre, à mon point de vue, de votre ami Pierre Falardeau, 15 février 1839. On y assiste aux dernières 24 heures de Lorimier et de quatre de ses compagnons d'armes avant qu'il soit pendu à la prison du Pied du Courant à Montréal. Comment vous avez vécu et êtes-vous sorti de ce tournage-là?
Ben, écoutez, tu sais, tourner avec Pierre Falardeau, c'est partir en mission. Hein. Moi, je l'ai fait sur octobre, en 1993, quand on a tourné le film sur la crise d'octobre.
Un autre grand film, ça.
Un grand film aussi, 15 février 1839. Deux films qui relatent des moments importants de la lutte pour l'indépendance du Québec. Et c'est des moments, tu sais, pour un artiste, participer à des œuvres comme ça qui refont l'histoire, qui retracent des moments importants de notre histoire. C'est quelque chose de... Tu te sens à la fois utile et tu te sens vraiment privilégié de participer à ce genre d'aventure-là. Puis, tu sais, travailler avec Pierre, ben c'est toujours un peu émouvant parce que Pierre, pour moi, c'est t'sais, moi, ma rencontre avec Pierre Falardeau, ça a été la rencontre marquante de ma vie, en fait. Moi, je connais Pierre depuis les auditions du film Le Party à la fin des années 80.
Ouais.
La première fois que je l'avais rencontré là, dans une audition, puis tout de suite, ça a été une rencontre marquante. T'sais, Pierre, c'est un homme qui avait... T'sais, pour moi, qui était jeune artiste à l'époque, qui sortait des écoles de théâtre, j'avais 25 ans, je me cherchais un peu. Là, t'as ce gars-là qui est totalement engagé dans sa cause, totalement charismatique, totalement convaincant, qui de toutes les façons possibles essaie par son art, soit par l'écriture, soit par la caméra, soit par les entrevues qu'il donnait à la télé, de défendre une certaine vision du Québec, de l'indépendance du Québec. Là, t'as ce gars-là qui se sert de son talent d'artiste pour faire avancer une cause. Ben, moi, ça m'a beaucoup marqué. Puis, tu sais, ça a beaucoup marqué mon engagement comme artiste. Là, évidemment, ça en est suivi, là, le fait que j'ai fait de la politique, mais j'en faisais avant. Tu sais, pour moi, faire un film avec Falardeau, octobre, 15 février 1839, ou être député pour le Bloc québécois.
C'est faire de la politique.
Ou, pendant une certaine époque, j'ai été porte-parole du mouvement Québec français aussi. Pour moi, c'est toute la même chose. C'est l'engagement pour le Québec, pour la langue, pour la culture. Puis, je vais continuer à le faire toute ma vie parce que c'est plus fort que moi. J'espère qu'on
Denis,
va régler.
Denis, un extrait, si tu veux, de 15 février 1839. Oui. Luc Picard tenant le rôle de Marie-Thomas de Lorimier.
OK.
Vive la liberté! Vive l'indépendance!
Alors, ma dernière question, est-ce que tu crois qu'elle adviendra l'indépendance? Est-ce que tu es très confiant?
Oui, très confiant. Je pense que ça va arriver plus vite qu'on pense. Je pense que dans les prochaines années, il va arriver des événements qui vont faire en sorte, qui vont provoquer une prise de conscience chez les Québécois, qui vont faire en sorte qu'ils vont décider de se donner tous les pouvoirs d'un État. C'est inéluctable, c'est inéluctable. Sinon, on va disparaître, puis je pense pas que les Québécois vont accepter de disparaître comme ça. Je pense qu'il va se passer des grandes choses dans les prochaines années, puis moi, je vais être là pour y participer.
Merci beaucoup, Denis Trudel.
Merci beaucoup, M. Rochon.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonne journée. Merci à l'ensemble de mes invités, outre Denis Trudel, Yann McClure, Louise Arel et Claude Rochon. La semaine prochaine, à la Tribune, la prochaine saison touristique à Sorel-Tracy. Bonne semaine, tout le monde.
La Tribune, une présentation de Meubles André-Beaudieu.